Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Bourse, l'écho du monde.
D'ailleurs, tiens, on pourra parler de cette croissance américaine révisée à la hausse avec Gilles Mouek. Il est avec nous, Gilles, bonjour. Chef bonjour. Économiste du groupe AXA, ravi de vous retrouver. Avant d'évoquer la dynamique américaine dans un instant, quand même, Gilles, cette question sur l'Europe. Voilà, on est sur la dernière séance du trimestre en bourse. Économiquement parlant, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que, bah, ça y est, la croissance européenne est au plus bas et que les signaux désormais pointent vers une reprise économique, une reprise de la croissance au deuxième ou au troisième trimestre?
Alors c'est vrai qu'on a quelques indicateurs qui commencent à être un tout petit peu rassurants, ou en tout cas qui indiquent qu'effectivement on n'est plus en dégradation supplémentaire. C'est le cas par exemple en France, hein. La dernière enquête INSEE était plutôt rassurante. C'est vrai aussi si on regarde les flux de nouveaux crédits à l'économie, ce qu'on appelle un credit impulse extrêmement négatif en 2023 et c'est plutôt stabilisé. Donc oui, on a quelques éléments comme cela un peu rassurants. J'ai quand même un léger doute sur la qualité de la reprise à venir parce que on attend toujours la baisse des taux. Elle viendra, je pense, à partir du mois de juin, mais je pense qu'elle sera timide, ce qui veut dire qu'on sera encore dans une orientation de la politique monétaire restrictive. Je ne suis pas sûr que l'impact ait été complet. Je pense qu'il y aura encore des effets retardés sur la seconde partie de 2024, à un moment où la politique budgétaire se durcit un peu partout. On en parle par exemple beaucoup pour la France, avec un focus en ce moment sur 2025, mais psychologiquement, je pense que ça y est, le message est passé. La politique budgétaire se durcit, et ça, c'est quand même pas une nouvelle extrêmement positive pour être dans l'intérieur. Donc, qu'on ait touché un point bas, oui, qu'on puisse compter sur une reprise très franche au cours de 2024, moi, je ne suis toujours pas sur cette ligne-là.
Oui, d'autant que le ralentissement, certes, aura été net, mais on n'est pas entré en phase de grosse récession. Donc, si reprise il y a, ce ne sera pas une reprise cyclique très, très puissante. Si on avait eu une récession ou quelque chose de beaucoup plus puissant, peut-être que le rebond aurait été plus puissant, mais comme ça n'a pas été le cas, on imagine que du coup, le rebond sera lui aussi assez faible.
Alors, c'est pas forcément, j'appelle ça le modèle élastique, hein. Ouais. C'est-à-dire que comme on a toujours l'impression que si l'élastique a été tiré dans une direction, il faut qu'il reprenne sa forme initiale. C'est pas toujours exactement comme ça que ça marche, mais c'est vrai que par exemple, lorsque vous avez une récession très profonde, vous savez ce qu'on appelle un nettoyage des stocks. Et lorsque la récession prend fin, eh bien les entreprises sont bien forcées de commencer à reconstituer les stocks. Et vous avez un effet de rattrapage, un effet de réaccélération en sortie de récession. Et c'est vrai que, comme vous le dites, comme on n'a pas eu de choc absolument massif, ces effets de rattrapage par la suite devraient être plus faibles. Et moi, j'insiste vraiment plutôt sur l'orientation des politiques économiques. On va conserver ce qu'on appelle un policy mix, hein, c'est-à-dire l'impact combiné du budgétaire et du monétaire, quand même restrictif sur la totalité de 2024. Et probablement sur une bonne partie de 2025.
Oui, ce qui ne devrait pas aider la croissance à véritablement accélérer, en tout cas pas très spectaculairement. On a eu aussi, alors vous l'avez dit d'un mot, le déficit, le chiffre du déficit français, 5,5%, le déficit de la France augmente à nouveau à 5,5% du PIB. Que vaut-il mieux? C'est le match France-Allemagne là, qu'on vous propose. Qu'est-ce qui vaut mieux, Gilles? Le déficit de la France, mais avec un petit peu de croissance, ou pas de déficit comme l'Allemagne, mais pas de croissance non plus?
Ce qui serait bien, c'est d'avoir ni déficit, pas déficit, un peu de croissance. Mais c'est vrai que dans la situation actuelle, c'est difficile de réussir à combiner cela. Je n'arrive pas véritablement à opposer les deux ou à comparer les deux parce que ce qui est frappant et frustrant d'ailleurs dans le cas allemand, c'est que cette réduction du déficit en 2024 n'est pas une réduction voulue. C'est pas le résultat d'un choix politique du gouvernement allemand. C'est le choix d'un cadre institutionnel qui est, je pense, devenu de plus en plus toxique avec cette règle sur la dette publique qui est de plus en plus inappropriée. Mais il n'y a pas de décision de la part de Berlin, c'est malheureusement quelque chose qui s'est imposé à eux. C'est vrai que dans le cas français, eh bien, je pense qu'on va retomber effectivement dans ces discussions assez lancinantes en France à chaque fois qu'il faut commencer à réduire les déficits, à savoir jusqu'où aller trop loin, c'est-à-dire comment trouver le bon équilibre entre réduire les déficits sans casser complètement la mécanique de la croissance. J'ai l'impression à mon âge maintenant académique, j'ai l'impression que ça doit être la cinquième ou la sixième fois que j'assiste au redémarrage de ce débat. Là, on commence à parler de chiffres de réduction du déficit qui qui commence à avoir un impact lourd, hein, en termes d'impact conjoncturel. Si on parle de 20 milliards, voire un peu plus d'économies, on est dans l'ordre du 1 point de PIB. Même si on compte sur un multiplicateur faible, ça fait quand même un impact assez lourd sur la demande intérieure. Donc là, je ne suis pas sûr qu'on puisse opposer la France à l'Allemagne, parce que je pense que dans les deux cas, on aura une croissance faible, hein, avec, plutôt une réduction des déficits, mais ce qui est dans le cas français probablement tout à fait légitime.
Et c'est comme ça qu'on explique le fait qu'il n'y ait pas de tension particulière sur la France, le fait que le marché semble donner crédit à la France, il n'y a pas d'écart particulier là entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, on est toujours sur 50 points d'écart. C'est cette communication du gouvernement sur sa volonté de réduire les déficits, les 20 milliards d'économies, le marché donne crédit à la France là?
Alors, ça s'est un tout petit peu réécarté là depuis que le chiffre de déficit est sorti, mais en fait, on est toujours un peu en dessous de l'écart de rendement qu'on avait au tout début de l'année. Donc, effectivement, pour l'instant, on a un marché qui reste calme. Je pense que voilà, c'est ce qui intéresse souvent les marchés, c'est pas tellement la photographie sur l'état des finances publiques en 2023, c'est quelle est l'orientation générale, quel est le message qu'on entend. Et le message, il faut quand même donner crédit de ce point de vue-là au gouvernement, le message est très clair. On va vers une politique d'austérité. Je crois que le Premier ministre a prononcé le mot de rigueur hier soir. Voilà, donc on n'est pas du tout dans un gouvernement qui se voile la face et qui ne répondrait pas en fait à ce qui devient maintenant une exigence un peu lancinante, qui est celle de la réduction du déficit et d'une baisse plus accusée de la dette.
Oui, quitte à rogner un peu la croissance. Alors, il y a un pays où il n'y a aucun problème là sur la croissance. Limite, elle est trop forte. En tout cas, on se demande si on... Non, mais incroyable, les États-Unis. D'ailleurs, la croissance du quatrième trimestre a été révisée à la hausse. Elle était déjà très forte. On en a beaucoup parlé, mille fois, de cette croissance américaine du quatrième trimestre éblouissante. Et bien là, elle a encore été révisée à la hausse à 3,4%. Qu'est-ce que ça nous dit là? Enfin, comment est-ce que vous voyez la suite, justement, sur cette croissance américaine? Vous voyez les signaux de ralentissement un peu plus nets à venir ou toujours pas, Gilles?
Là, ça commence un tout petit peu. Enfin, il faut un bon microscope, mais on commence à voir des choses. On a eu des chiffres sur les ventes au détail en janvier-février qui étaient quand même assez mous, voire même très nettement mous. Quand on regarde le message qui nous vient des indices ISM, c'est aussi assez mou. Alors mou, il faut s'entendre. Nous, on rêverait d'avoir ce type de malaise en Europe, mais on se rapproche tout doucement de ce qui est sans doute la croissance potentielle américaine, qui est un tout petit peu en dessous de 2%. Si je prends l'indice de la Fed d'Atlanta, qui cherche en temps réel à donner une estimation de la croissance du PIB en cours, du trimestre en cours, à partir de toutes les infos disponibles, ils sont un tout petit peu au-dessus de 2 et ça a tendance à ralentir, à baisser depuis maintenant 2 ou 3 semaines. Je pense qu'on va peut-être finir le trimestre à quelque chose entre 1,5 et 2. Donc ça commence à s'adoucir, mais c'est effectivement toujours sur des rythmes qui feraient rêver en Europe.
Et du coup, est-ce que l'inflation, le PCE, l'indice PCE, qui est la mesure d'inflation la plus suivie par la Fed, est-ce que l'indice PCE demain, risquant de confirmer la réaccélération de l'inflation, est-ce que vous pensez que la Fed va finalement moins baisser ses taux que le marché l'espère?
Alors, moi, j'ai longtemps été très grognon sur les anticipations du marché. On en a souvent parlé à cette antenne. Je pensais que le marché si baisse d'autour 2024.
Je crois qu'on vous a perdu. Il y a de la friture sur la ligne, comme on dit. Ouais, on vous entend plus très bien.
Le marché.
Malheureusement.
À baisse de taux.
Gilles, on vous rappellera. On vous rappellera, malheureusement, la liaison là est en train de devenir un petit peu plus irrégulière. Mais c'est vrai que demain, l'indice PCE pourrait montrer, confirmer, marquer une réaccélération de l'inflation. Certains de nos experts nous disent on pourrait imaginer la Fed baisser ses taux même si l'inflation ne revient pas à l'objectif de 2%. Et ce serait dans ce cas peut-être le début de l'abandon implicite de l'objectif de 2%. On va reposer cette question à nos experts tout au long de l'après-midi. On est là, on reste confortablement installés ensemble et on vous accompagne jusqu'à 18h.